Le journal de la mi-journée avec vous, Anthony Montandon. Bonjour.
Bonjour. L'horlogerie exporte presque autant qu'avant la crise. Les chiffres pour le mois de juin et même pour l'entier du premier semestre de l'année sont bons. Le détail dans quelques instants. Il passe tous les étés par chez nous. Le cirque Knopf a fait escale à Soubeau le week-end dernier et reviendra prochainement à Bienne avant de poursuivre sa tournée. Une tournée à laquelle participe en coulisses une jeune de la région. Des représentants de la Suisse sont en visite à Bruxelles. Le ministre des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, en fait partie. Cette délégation rencontre des officiels européens pour la première fois depuis le rejet de l'accord cadre avec l'UE. Mais aucune grande révolution n'est à attendre de cet entretien. Temps clair et radio, menu météo de ce mardi. Quelques nuages pourraient faire leur apparition sur les crêtes, mais ils ne seront jamais menaçants. Température entre 24 et 27 degrés. Rebond dans l'exportation horlogère suisse. Le secteur accélère son redressement dans un contexte toujours marqué par la pandémie. Une année après la reprise des exportations, les chiffres sont plus que positifs selon un rapport de la Fédération de l'industrie horlogère suisse. Les détails avec vous, Clotilde Loup.
C'est exact. Ce premier semestre, les exportations horlogères suisses accélèrent le retour à la normale. Avec presque 2 milliards de francs, elles ont dépassé de 12,5% le niveau de référence de 2019. Comparé à juin de l'année dernière, c'est une progression de 71%. La hausse enregistrée de juin est menée par les montres de plus de 500 francs. Le marché de l'exportation est donc en bonne progression après la crise de 2020. Les principaux contributeurs sont les États-Unis et la Chine. Leur niveau d'exportation a doublé comparé à 2019. Hong Kong connaît aussi une hausse plus modeste, alors que le Japon baisse dans l'exportation à cause de sa situation sanitaire. En Europe, l'Italie enregistre une surprenante augmentation, tandis que la France, l'Allemagne et l'Espagne restent en dessous des niveaux de référence.
Merci Clotilde. Les perspectives s'éclaircissent pour l'horlogerie suisse, mais elles restent prudentes. La marche des affaires reste conditionnée par l'évolution de la situation sanitaire et aux mesures restrictives qu'elle pourrait imposer sur les différents marchés. La situation, cette fois sur le lac de Bienne, s'est calmée, mais les eaux stagnent à un très haut niveau et le degré d'alerte reste à 5, c'est le plus élevé. Les autorités de Bienne et de Nidau, ainsi que l'organe de conduite régionale de Bienne, ont appelé ce matin la population à faire preuve de patience. Nous sommes dans une zone d'attente, il y a encore de l'eau partout, a expliqué Hans-Uli Zurbrück, le chef de l'état-major que vous pourrez entendre dans notre journal de 18h. Place de jeu et terrain de sport sont désormais répertoriés sur deux cartes à Bienne. Ces documents doivent permettre aux enfants et aux parents de trouver des espaces extérieurs ou rencontrer d'autres personnes. Les cartes sont disponibles dans les infoquartiers et sur le site internet de la ville. C'est une tradition. Depuis des années, le cirque Knopf est de retour dans la région et c'est à Soubeau qu'il a installé ses roulottes le week-end dernier. Le tout nouveau spectacle de la troupe s'intitule Level 2748. Il met en scène 4 artistes professionnels et 7 jeunes âgés de 14 à 21 ans. Et dans l'équipe, une jeune de la région mais qui œuvre en coulisses, Renia Flori vient de Mont-Soleil. Elle vit sa deuxième saison avec le cirque Knopf en tant que technicienne et nous explique comment elle a atterri dans ce monde particulier, Renia Flori.
C'était, je crois, un peu du pur hasard, parce que j'ai fait la matu et de base, je voulais aller voyager, mais j'avais pas de sous et il y avait le corona. Et du coup, il y a une copine à maman qui m'a dit qu'il y avait cette place qui était libre et je me suis dit que c'était un bon entre-deux, voyager et travailler en même temps.
De métier, hein, vous êtes mécanicienne sur machine agricole. Vous arrivez ici au cirque. Votre fonction, c'est quoi exactement?
Ma fonction, c'est de réparer les roulottes, les tracteurs où l'on vit dedans et avec lesquels on voyage dans toute la Suisse.
Et vous auriez pensé un jour travailler dans un cirque?
Je pense pas, non. Mais je trouve que c'est génial que mon métier, on pense pas vraiment au cirque et je trouve que c'est génial qu'il y a cette opportunité, quoi.
Renia Flori était au micro d'Olivier Zano. Après Soubeau, le cirque Knopf s'en est allé installer sa scène en plein air à Saint-Ursanne pour 4 productions à voir dès demain. Suivront encore des dates à Lajoux et à Bienne. Un programme à retrouver en détail sur notre site internet. L'avenir du contournement de la H18 à la Chaux-de-Fonds se jouera probablement dans les urnes. Les référendaires annoncent avoir récolté les 4500 signatures valables. Les paraphes seront déposées jeudi à la chancellerie d'État neuchâteloise qui devra encore les valider. Solidarité Neuchâtel, la Grève du Climat, les Jeunes Verts Neuchâtelois et Greenpeace Neuchâtel estiment que ce projet de visa à 186 millions de francs est validé par le Grand Conseil et démesuré. Ce contournement avait pourtant été validé en 2016 par 80% de la population neuchâteloise dans le cadre de la votation Mobilité 2030. Chloé Dutoit, membre des Jeunes Verts Neuchâtelois.
J'ai pas l'impression qu'on aille à l'encontre d'une décision populaire dans le sens où les mentalités ont évolué depuis. Il y a passablement de choses qui se sont déroulées. Et puis, on voit également que finalement, ce projet, maintenant, il a été présenté par le Conseil d'État de manière un peu scabreuse, si je peux utiliser ce terme, avec typiquement des augmentations du trafic dans certaines rues de la Chaux-de-Fonds qui sont passablement cachées à la population. Donc nous, on souhaite vraiment qu'il y ait un débat public qui soit possible. Et on estime que Mobilité 2030, certes, a été acceptée par la population, mais que ce projet, il faut absolument que les gens se rendent compte de ce qui se cache réellement derrière.
Pour vous, ce qui se cache derrière, c'est du trafic qui va être dévié sur d'autres rues qui sont également dans le centre?
Oui, absolument. Il y a passablement d'exemples. Typiquement, la rue Numadrot avec 83% d'augmentation de trafic. La rue de la Charrière également à plus de 60%. Pour nous, c'est vraiment des chiffres qui manquent actuellement dans le débat public. Nous, on a essayé de les amener en interpellant justement les habitants et les habitantes de la Chaux-de-Fonds à ce sujet-là. Et on a vu que ça a marché. C'est pour ça qu'on a réussi notamment à récolter assez de signatures. C'est que les gens, en fait, se sont rendus compte qu'on leur promettait un projet finalement presque de mobilité douce, alors qu'en réalité, on arrive à une externalisation journalière d'uniquement 6000 véhicules, ce qui est vraiment ridicule, si on peut dire ça comme ça, pour une dépense de 186 millions de francs.
Un dossier de Sarah Massy et Sonia Bernauer-Mia. De son côté, le Conseil d'État neuchâtelois reste convaincu de la nécessité du projet de contournement pour l'attractivité de la Chaux-de-Fonds. Il dit regretter toutefois le retard qu'engendrera ce référendum. Et notez que ce référendum, justement, sera accompagné d'une motion populaire. Le texte demande que la part cantonale de 73 millions de francs prévue pour le projet de contournement soit attribuée à des projets de mobilité collective dans le haut du canton. Le ministre des Affaires étrangères Ignacio Cassis et la négociatrice Livia Loy sont à Bruxelles ce mardi. Deux mois après le rejet par le Conseil fédéral de l'accord cadre avec l'Union européenne, ils ont rendez-vous avec les influents membres de la Commission européenne, Josep Borrell et Johannes Hahn. Qu'en attendre ? L'analyse de notre correspondant à Berne, Serge Hubin.
À peu près rien, il s'agit d'un simple échange de vues, reconnaît lui-même le département fédéral des affaires étrangères. Il n'en sortira donc pas grand-chose, mais il s'agit pourtant d'un rendez-vous important, le premier de l'après-rejet de l'accord cadre par le Conseil fédéral. On se regarde désormais en chien de faïence. L'Union européenne a appliqué ce qu'elle avait annoncé en cas de refus de l'accord. Pas d'actualisation de la reconnaissance des produits technologiques médicaux et éviction de la Suisse du plan de recherche Horizon 2027. Le dossier de la recherche est le plus urgent à traiter. La Suisse doit faire un geste, devrait être le déblocage du 1,3 milliard de francs de cohésion destiné aux nouveaux pays de l'Union européenne. Mais Ignacio Cassis n'a pas le chèque avec lui. Il doit retourner devant un Parlement suisse qui risque de ne pas le libérer si facilement, l'UDC est contre et le reste de la droite veut des garanties européennes. Ignacio Cassis risque en outre de découvrir qu'on voit la Suisse avec un nouvel œil à Bruxelles, qu'elle n'est plus forcément un partenaire loyal et fiable, qu'elle n'est qu'une profiteuse. Avec son approche égocentrée de sa relation avec l'Europe, la Suisse risque de découvrir qu'un fossé post-26 mai s'est creusé à Bruxelles.
À l'étranger, une journée de deuil national en mémoire des victimes des intempéries. La Belgique se recueille après l'épisode météorologique qui a fait 31 victimes la semaine dernière. Une minute de silence a été observée à midi. Des recherches sont toujours en cours dans le pays. Près d'une septantaine de personnes sont toujours portées disparues. Jamais autant de migrants n'ont tenté de traverser la Manche qu'hier. 430 personnes ont essayé de rejoindre le Royaume-Uni en 24 heures, d'après le ministère britannique de l'Intérieur. Une estimation de la BBC fait état de près de 8000 arrivées sur les côtes anglaises depuis le début de l'année. La justice française se saisit de l'affaire Pegasus. Ce logiciel espion israélien a été utilisé pour infiltrer les téléphones de journalistes, opposants politiques et activistes. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour 10 chefs d'accusation différents. Une action lancée après la révélation de la présence de ce programme sur les appareils mobiles de journalistes français. Une action qu'aurait menée l'État marocain. Ce dernier réfute. Les milliardaires sont, eux, à la conquête de l'espace. Après Richard Branson, il y a 9 jours, c'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui va vivre quelques minutes d'apesanteur. Il embarquera avec lui 3 autres personnes dans sa fusée New Shepard. Décollage prévu à 15h aujourd'hui. Caroline Toussaint.
Le vol culminera à 106 km d'altitude, juste au-dessus de la limite officielle entre l'atmosphère et le vide. Mais il ne s'agira pas d'un vol orbital, à peine quelques minutes aux confins de l'espace, puis retour vers la Terre. À bord de la fusée, Jeff Bezos, donc, son frère et 2 autres personnalités hors du commun. Tout d'abord, Wally Funk, pionnière de l'aviation et de l'aérospatiale américaine. Elle a 82 ans et deviendra la personne la plus âgée à être allée dans l'espace. Et puis il y aura aussi l'astronaute le plus jeune de l'histoire, Oliver Dieman, 18 ans, qui rêve de travailler un jour dans le secteur spatial.
Et le décollage est donc prévu à 15h. 2 autres vols sont prévus par Jeff Bezos cette année et il en compte en développer davantage encore en 2022.
Et sur rjb.ch, on vous demande votre avis sur notre sondage de la semaine concernant ces voyages spatiaux. Midi et 26 minutes, place au sport.
Sport. L'empereur du Japon Naruhito assistera vendredi à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. L'agence de la Maison Impériale a confirmé sa présence ce matin. Participation jusque-là incertaine après la polémique survenue fin juin. L'empereur aurait été inquiet à l'idée d'apparaître en public en raison de la flambée de Covid-19. L'impératrice Masako ne sera en revanche pas présente. La cérémonie se tiendra sans spectateurs, mais en présence de quelques centaines de personnalités japonaises et étrangères. Et à 3 jours des Jeux, le Comité international olympique a décidé d'élargir la liberté d'expression des athlètes, sujet sensible après les débats autour du mouvement Black Lives Matter et qui ont agité l'Euro de football. Les athlètes olympiques pourront désormais s'exprimer sur des sujets politiques ou sociétaux devant les médias, lors de réunions d'équipe, sur les réseaux sociaux et même juste avant les départs de leurs épreuves. En revanche, toute manifestation pendant les épreuves, sur les podiums ou pendant les hymnes reste interdite sous peine de sanction. La charte olympique interdisait jusqu'à présent toute démonstration ou propagande politique. Et une nouveauté cette fois pour les JO d'hiver 2026 à Milan, le ski alpinisme fera partie des nouvelles disciplines. Les membres du comité international olympique l'ont approuvé à l'unanimité. Les organisateurs italiens l'avaient en effet demandé comme sport supplémentaire sans garantie d'être reconduit pour les éditions futures. Une bonne nouvelle pour la Suisse qui compte d'excellents spécialistes. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau journal. Le prochain rendez-vous à l'antenne avec l'information, c'est à 16h. Très belle journée.
Merci beaucoup Anthony. Et pour être totalement complet, place à la météo de ce mardi. C'est une très belle journée au programme de cette journée de mardi avec un temps bien ensoleillé en toute région et avec la bise qui faiblit. Les experts de Météo News nous annoncent, comme hier, le développement de cumulus sur le Jura au fil des heures, mais le temps restera au sec. Côté température, ça reste passablement identique à la journée d'hier. On a perdu 1 degré, un plus ou moins partout, puisqu'il fera 24 degrés au meilleur de la journée à Tavannes, Tramelan et Saint-Imier, 26 à Bienne et à Moutier, ou encore 27 pour La Neuville. Mais comme la bise se fait plus discrète, l'effet de chaleur sera plus fort. À partir de demain et ce jusqu'à vendredi, météo pleinement estivale, ensoleillée et chaude, avec des températures qui vont aller jusqu'à 30 degrés dans certains coins de la région. Par contre, dès vendredi soir, on aura des possibles orages isolés.